Bonsoir. Les Bleus, chanceux, vont en finale de la
Coupe du Monde. Les Européens, plus ou moins nombreux, plus ou moins radicaux, les manifestations.
Et François Hollande, à suivre également.
Mouvement national des anti-nucléaires aujourd'hui à Rennes.
Mouvement national des anti-nucléaires.
Ce quart est presque plein, il reste 6 places il me semble. Le deuxième quart vient de nous dépasser, a chargé à Landerneau, va s'arrêter également à Morlaix. Et nous on va prendre ce qui restera à Plérin, on va s'arrêter à Plérin puisqu'il y a pas mal de monde qui attend du quart là-bas. Nous proposons aussi, nous avons le autocollant anti-nucléaire aussi, celui-là est en vente. C'est AE2D qui a financé l'achat de ces différents...
AE2D, c'est une association qui a été créée il y a une dizaine d'années sur la région de Brest, mais elle a vocation à agir sur l'ensemble du département. On est une association qui a un champ d'intervention large. On ne s'est pas restreint sur les aspects purement naturalistes, botanistes ou question des déchets ou transport. On essaie d'intervenir sur l'ensemble des champs, y compris le nucléaire.
L'achat de ces différents autocollants, donc il est en vente 1 euro, donc s'il y en a qui le souhaitent, on en a un stock avec nous.
Il y a quoi dessus ?
Pardon ?
Qu'est-ce qui est écrit dessus ?
C'est en breton, c'est l'autocollant en breton, nucléaire non trugarez, qui veut dire nucléaire non merci, c'est le message international, c'est la déclinaison bretonne. Ça date de Plogoff, bien sûr, Plogoff, ça fait quand même plus de 30 ans. Le micro peut rester ouvert s'il y en a qui ont des messages à faire passer, bien sûr des messages qui sont liés à la
chose. Moi j'attends qu'on en parle de plus en plus et que ce soit de plus en plus synchronisé, toutes ces manifestations contre le nucléaire, pour sortir du nucléaire. Et donc la première chose c'est déjà de dire que c'est pas juste 2-3 énergumènes dans un coin qui se posent des questions, mais c'est vraiment un besoin de la population de demander à débattre des problèmes d'énergie. Et ça mettra, c'est sûr que ça engage toute une société, les énergies ou le nucléaire. Il faut commencer par faire un peu de la pub de ça, quoi. J'y vais surtout pour ça, quoi, pour qu'on parle de ce problème. Il y a après Tchernobyl, donc il y a 25 ans, Roger et Belbéoc avaient sorti un bouquin qui s'appelait « Sortir du nucléaire ». C'est des ingénieurs nucléaires qui ont dit, à l'époque, il n'y avait pas tous ces renouvelables et ce n'était pas très performant. Et ils ont dit, déjà, on peut enlever un tiers dû à le gaspillage, un autre tiers dans une autre configuration du réseau de distribution des énergies et de l'électricité. Donc on va avoir des grandes centrales, des grandes lignes 400 000 volts, etc., qui doivent produire, faire des trucs plus adaptés localement, régionalement, ça fait un deuxième tiers. Et le troisième tiers, c'est pas le nucléaire qui le fournit, parce que le nucléaire en France, c'est 80% de l'électricité, c'est 17% de l'énergie. Donc il reste quand même déjà 20% d'autres choses que le nucléaire pour faire de l'électricité. Et cette part, on peut la faire augmenter par les photovoltaïques, par ce qui n'existait pas à ce moment-là, par les hydroliennes, les éoliens, la biomasse, et ce qui est très important, ce qu'ils appellent les réseaux intelligents, les smart grids. Alors, comment ils vont les employer, ça je ne sais pas, mais ça a la possibilité justement de déclencher les appareils ou de les bloquer dans une maison pour gérer la consommation d'électricité. Et les gens qui auront ça, si on leur laisse la maîtrise de ça, ça va leur permettre de payer moins cher l'électricité, parce qu'ils vont la prendre là où il y a beaucoup d'offres et pas beaucoup de demandes. Et donc ça va éviter de surproduire de suréquipement électrique. Et ça fait partie de la tactique de sortir du nucléaire depuis 25 ans, depuis après Tchernobyl. Et à peu près deux tiers déjà, si on change de système de production d'électricité et de distribution, et si on fait des économies, il y a deux tiers qui dégagent. Donc c'est tout à fait accessible. Bon.
Bon alors vous, vous descendez pas avec nous là? Vous voulez pas manifester?
Non, moi je ne descends pas, je vais aller casser la croûte maintenant. Parce que j'ai une petite faim, je suis debout depuis 4 heures ce matin. Hein. Et vous voulez que je le dise en breton également? Vous le connaissez le breton, non?
Non,
bien. Maison d'Azribi, à vraiment, à Darinka, à Harboutine. Puis j'ai guéri une savette, vous voyez, pédérer, Gintaou. Trugares dehors, d'Erzma dehors.
Et vous, vous en pensez quoi alors du nucléaire?
Moi déjà, je me bats contre les éoliennes. Déjà, moi j'habite à Plouguerneau là-bas, et puis je me bats un petit peu contre les éoliennes. Je suis pas contre les éoliennes, mais qu'elles soient mises trop près des habitations, parce que ça crée des problèmes. Hein. Voilà ce que j'ai à vous dire.
Ok.
Le nucléaire, je ne suis pas du tout pour le nucléaire, je suis contre.
D'accord, voilà. Merci.
Il a déclaré le président, si vous voulez vous passer du nucléaire, il faudra accepter de vous éclairer et de vous chauffer à la bougie. De vous chauffer à la bougie, vous entendez? Belle parole qui a été puisée dans le répertoire des grands penseurs des années 70, ces pèlerins parfois boiteux. Vous chauffez à la bougie. Avez-vous essayé déjà de vous chauffer à la bougie? Essayez de mettre vos miches auprès d'une bougie pour vous chauffer les fesses sans vous brûler. Oui, on peut aujourd'hui se chauffer à la bougie, à condition évidemment de s'éclairer au radiateur.
Michel, boulanger, voilà, du Cotentin, de la Cherbourg, aimant la région, mais voulant qu'elle le reste bien. On fait des prélèvements réguliers tous les mois et c'est à Hérouville, près de Caen, qu'il y a un laboratoire. C'est complètement indépendant. L'ACRO, A-C-R-O. C'est l'équivalent de la CRIRAD, mais pour l'ouest de la France. Et alors, ce qui est amusant, c'est que quand on trouve un taux de radioactivité quelque part dans le Cotentin, on le confronte avec les résultats que fait Areva. Ah, ben oui, madame! Oui, on a fait aussi des prélèvements. Ils sont inférieurs aux vôtres, mais c'est exceptionnel. C'est parce qu'on a eu un petit court-circuit, on n'a pas bien noté. Enfin, il y a toujours une raison valable. Le Cotentin a quelque chose de dramatique, c'est qu'il n'y a aucune industrie. Et comme bassin d'emploi, il n'y avait que l'Arsenal qui est fermé. Donc, contrairement à la Bretagne qui a plein de petites sociétés industrielles, les jeunes tolèrent très bien le nucléaire, se disant qu'il va y avoir de l'embauche. Or, ce que je vous citais comme exemple, l'EPR de Flamanville embauche 3400 personnes actuellement. Sur 3400 personnes, il y a 3100 personnes qui viennent des pays de l'Est, qui sont exploitées jusqu'au trognon. Dont on vérifie le radioactivité et qu'on met au chômage dès que c'est dépassé, il y a des choses. C'est pour le Nord Cotentin, c'est pas du tout une source de revenus. D'ailleurs, Cherbourg, pour moi, est une ville où on sent de plus en plus de précarité.
Qu'il y a plein de monde, que c'est intergénération, des jeunes et des moins jeunes, et que c'est très dynamique, et tous contre le nucléaire, et on va gagner, comme à Plogoff, il y a un certain nombre d'années. Voilà.
Ouais, vous y croyez alors?
Moi j'y crois à fond, ouais. De toute façon, il faut qu'on y croit. Ah, il faut, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants et quelle terre on veut leur laisser? Il y a le projet de contre l'EPR, il y a le projet aussi Notre-Dame-de-Lande, tout ça c'est des projets pour une autre société. Nous, on ne veut pas de cette société-là avec le nucléaire, avec Notre-Dame-des-Landes, où ils détruisent tout. Moi, je veux une autre société, beaucoup plus humaine, beaucoup plus agréable, pour tout le monde. Moi, j'ai espoir. J'ai vraiment espoir, ouais. Bah ouais, la vie est belle. Le soleil est avec nous. Un beau ciel bleu au 15 octobre, c'est formidable. La vie est belle. Sans EPR, sans aéroport Notre-Dame-des-Landes.
Et voilà, sortir du nucléaire, ça veut dire aussi avoir conscience de ce qu'on consomme. Et avoir conscience de ce qu'on consomme, ça veut dire, couper le câble électrique qui nous relie à EDF et commencer à produire notre énergie, quoi, grâce à des éoliennes ou à des panneaux solaires ou à de l'énergie avec des ruisseaux, trouver des dynamos, essayer de faire preuve d'imagination et d'inventivité pour qu'on se sente responsable de notre vie et responsable de ce qu'on consomme, quoi. Moi, je peux me vanter d'être relativement autonome au niveau énergie, vu que je fais comme beaucoup de gens en camion, je prends un panneau solaire et je sais ce que je consomme. Bien sûr, je ne consommerai pas comme si j'avais une maison. Je fais attention à l'éclairage, je fais attention au son, à l'ordinateur, qu'est-ce que ça consomme, combien de temps je le fais allumer. Qu'est-ce que je fais justement, ça pose la question de ce que je fais aussi sur mon ordinateur ou ce que je fais quand j'allume la lumière. J'avoue que l'énergie parfaite n'existe pas encore et on n'est peut-être pas prêts, nous humains, à avoir cette énergie-là. Je sais pas, mais c'est un moindre mal, quoi, d'avoir ça. Mais c'est vrai que si tout le monde a ça, ça serait pas non plus une solution parce qu'il y a de l'acide dans les batteries, les panneaux solaires, il faut aussi beaucoup d'énergie pour les construire et c'est des matériaux rares. Donc... voilà, c'est pas, y a pas de chose parfaite, mais quand même, le nucléaire, c'est clair et net que c'est méga dangereux. Moi, je mets la vie de personne en jeu quand j'allume mon électricité. Et voilà.
On essaye de nous discréditer. Faisant passer pour des donneurs de leçons, pour des rabat-joie, etc. Non, nous, on pense qu'on a besoin d'énergie, on pense que le progrès, c'est quelque chose d'acceptable, de légitime, mais quel progrès? C'est ça la question, quel développement?
Donneur de leçons à ceux qui décident de nous envoyer au front pour se faire massacrer, oui. Non à ces cons-là, quoi. Par contre, les gens je vais commencer par moi. Moi, je suis un Français moyen. Moi, j'ai une bagnole qui marche au pétrole. J'ai pas une éolienne qui charge ma voiture électrique. Et je suis comme tout le monde. Je consomme, je pollue, mais je suis pas responsable des décisions des infrastructures de ce pays. Alors, tout ce que je peux faire, moi, dans mon côté, je le fais. J'essaie de le faire, en tout cas, selon mes moyens. Un truc, par exemple, qui peut être très important, et là, moi, je vais militer pour ça, l'hiver. Si on isole les bâtiments, ça va pas faire du boulot pour les ingénieurs d'EDF ou de GDF, ça va faire du boulot pour des gens comme mon fils, qui ont des CAP, et qui vont pouvoir être plaquistes, qui vont pouvoir isoler des maisons, ça va faire bosser des petites entreprises, des moyennes entreprises, ça va faire... Et ça, c'est local. On va pas délocaliser un CAP, il va pas aller à Pékin demain, parce qu'il y a un chantier à Pékin. EDF peut laisser tomber la France, aller travailler à Pékin. Et ça, c'est l'équivalent à peu près de 20 000 emplois en Bretagne. Hein. Mais en Bretagne, on a vachement de boulot à faire au niveau de l'isolation, parce que comme il fait pas très froid, ma foi, on, on s'en fout, mais un radiateur électrique, puis on l'allumera quand il fait froid. Et les trois quarts des maisons, ce que j'appelle des maisons de Schtroumpf, c'est des propriétaires qui font des maisons qui coûtent pas cher, hein, style les maisons Bouygues, hein, qui sont mal isolées. On met du radiateur électrique, ça coûte pas cher à installer. Et par contre, les gens qui vont louer ces maisons, ils vont pas les acheter, ils vont les louer, ils vont être locataires. Eux, ils ont déjà pas vraiment de moyens, hein, ils sont un peu précaires. Et ben, ces gens-là vont se retrouver avec des maisons qui vont coûter très cher à chauffer, des loyers qui coûtent quand même cher, et quand ils ne peuvent pas payer la facture, en fait, c'est ce qu'on voit, j'en ai discuté avec plusieurs maires, eh ben on va voir la mairie, et les mairies, grosso modo, payent 10% des impayés en gaz et en électricité. Et on va accentuer ce phénomène-là. Alors évidemment, on va donner des leçons, on va donner des leçons aux décideurs, aux porteurs de projets, mais on va pas donner des leçons à des gens comme nous. On va leur donner à la rigueur que des encouragements en disant que ben, d'autres pays le font, c'est possible. Les Japonais, dans la mer qu'ils sont, la mer totale, la mer de Noir, refusent de redémarrer le nucléaire et ils sont dans la mer, mais ils s'en sortent. Ils vont trouver un chemin de sortie. Ils ont voté à plus de 70% pour se sortir des énergies par le renouvelable, même si ça va être long. Donc, évidemment qu'on peut faire des choses, mais évidemment qu'il faudra être beaucoup moins capricieux et qu'il y aura un petit peu d'effort à faire. Mais on a tellement de gaspillage que c'est pas méchant. Il y a 20 ans en arrière, si on vit ne serait-ce que comme il y a 20 ans en arrière, on vivait quand même pas mal, et ben on s'en sort. J'aime bien citer ce truc. C'est un ancien résistant, un copain à Stéphane Hessel, qui s'appelait Roger Krieger Valrimont. Il a dit, qui sait, le 6 février 1934, alors que la France est pratiquement acquise à l'extrême droite, qui peut dire que 2 ans plus tard, il y a un front populaire, qu'on va voter 15 jours de vacances pour les ouvriers, du jamais vu, c'est du gros délire. Les patrons vont payer les ouvriers, ces feignants-là, pour aller en vacances sur leurs frais. C'est impossible de le dire. C'est incroyable. C'est même plus de l'utopie, c'est de la folie démente. Et pourtant, c'est l'histoire. Et les gens, là, ils ne se sont pas posés 36 questions. C'était, bon, on n'a plus le choix, il faut y aller, il faut crocher dedans. Par contre, ils en ont eu conscience. Tant qu'ils n'en ont pas eu conscience, alors, ben, on prend les exemples de maintenant, à l'arrière, le printemps arabe. Bien sûr qu'on a des outils, bah profitons-en. Il y a les réseaux sociaux, tant qu'ils ne sont pas censurés, que ce soit Facebook, Twitter, Internet, bon, allons-y, ça peut être à double tranchant. On peut se faire fliquer, mais aussi on peut s'en servir. Ils s'en sont servis, bon, c'est pas gagné, ils ont la démocratie à construire, hein. Faut pas se faire récupérer. Ok, bah voilà, c'est ça. Mais bien sûr qu'on est confiant dans l'espoir. Et juste le dernier truc, c'est par rapport au photovoltaïque et à l'éolien. S'il n'y avait pas eu le gouvernement qui aurait bloqué le photovoltaïque, c'est la moitié de la France qui aurait des panneaux voltaïques sur leur toit. Et ça a été saboté parce que sinon, il y avait un engouement, tout le monde était parti dedans. Ça, et en 2-3 mois, tout le monde, on refusait des projets. Donc c'est pas vrai que les gens n'ont pas conscience, c'est comment on les manipule plutôt, quoi. À partir du moment où on ouvre un peu les vannes, ça va aller tout seul. Moi, je m'appelle Christian Revers. Je fais partie de diverses associations. Je fais partie de la CRIRAD et puis je fais partie du collectif Gaspard. On va dire comme ça. Voilà.
Manifestation anti-nucléaire aujourd'hui dans 7 villes de France à l'appel du réseau Sortir du nucléaire. Elle a pris clairement position sur le sujet de la sortie du nucléaire.
On commence d'abord avec les primaires socialistes. Alors selon vous, la sortie totale du nucléaire sera-t-elle une condition non négociable en vue d'un accord entre votre parti et le Parti socialiste ?
Oui, pour moi, la sortie du nucléaire avec un calendrier est une condition non négociable. Non négociable.